compris de... Je pense qu'on va en discuter encore pendant très longtemps. Mais il va falloir passer la parole à notre deuxième intervenant. Parce qu'effectivement, vous avez souligné la question de différents niveaux de territoire, des différents types d'acteurs, de l'articulation entre tous ces niveaux, ces acteurs, à la fois de façon globale et à la fois derrière avec les interprétations, y compris à l'échelle micro. Donc c'est cette articulation-là qui, y compris, peut-être fait que nous sommes en séminaire autour de ces questionnements-là. Donc c'est bien, il n'y a pas une réponse, il y en a sûrement plein. Peut-être que d'ailleurs notre deuxième intervenant, je ne sais pas ce qu'il a prévu de nous dire, mais dans une approche plus... va peut-être donner des éléments de réponse et d'articulation avec ce qui a été dit précédemment.
Je ne sais pas, c'est toujours intéressant d'entendre une personne d'une discipline proche, mais je trouve assez lointaine finalement, parce qu'on a des définitions, que ce soit les définitions que ce soit de ville, de lieu, etc., assez différentes, hein, il faut bien le dire. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est... là, on a une vision, il me semble, très fonctionnelle de la ville, hein, malgré tout, très quasi mécaniste, hein, sur certaines visions de fonctionnement. On était en termes de fonctionnement souvent. Moi, ce que je propose, moi, c'est plus, donc, dans mon travail, une approche socio-anthropologique, une sociologie empirique qui part des acteurs, hein, qui va voir le sens que les acteurs donnent à ce qu'ils font. Et à partir de là, essayer de comprendre, hein, comprendre comment la ville se construit aussi, pas seulement à partir de la logique des aménageurs, qu'on a des aménageurs légitimes et officiels, on va dire, mais comment il y a une co-construction qui s'opère entre différents acteurs, et parmi eux, les acteurs culturels, qui sont pris dans l'approche que je vais proposer. Donc j'ai proposé une approche de la culture, rien de moins, mais de l'approche de la culture et de la territorialisation des pratiques culturelles, qui montre comment les acteurs culturels sont un acteur de la ville qui la construisent au même titre que d'autres, les acteurs économiques, les aménageurs politiques, etc. Donc il y a un premier élément dans cette approche qui consiste à désacraliser la culture et les acteurs culturels qui sont, comme d'autres, empreints d'interaction avec leurs voisins, avec les riverains, avec les acteurs économiques, j'en ai parlé, que ce soit des artisans, des commerçants, etc., dès lors qu'ils s'installent dans un quartier, que ce soit une petite association qui occupe un local, ou alors deux grands lieux culturels, un opéra, des friches industrielles sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. C'est au départ les terrains qui m'ont conduit à élaborer cette approche, donc depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à Berlin. C'est aussi, pour revenir sur l'idée de mon approche qui serait francilienne, oui, alors récemment je me suis refocalisé sur Paris et la région parisienne, mais avant tout, mon approche est européenne et c'est construite dans... J'ai sorti des bouquins dans lesquels on a des comparaisons à l'échelle européenne sur une trentaine de pays dans lesquels il y avait des lieux culturels pris en compte comme ça pour analyser la place qu'ils prenaient dans l'espace urbain et comment ils construisaient un statut dans l'espace urbain, le projet et le lieu. Je commencerai par dire que le paradigme que nous avons en général, c'est un peu prétentieux de dire ça, pour appréhender la culture est trop empreint d'idéologie et n'est pas assez complexe pour comprendre comment la culture et l'action culturelle collective, donc c'est le terme que j'emploierai, l'action culturelle collective prend place dans la ville et construit la ville. On a toujours une réduction, enfin fréquemment une réduction du culturel à l'artistique. Ça c'est un biais extrêmement français qui nous empêche d'appréhender la complexité des sens donnés à l'action culturelle comme action collective. Donc déjà, de dire qu'une action culturelle est une action collective, ça nécessite une première rupture avec la conception qu'on a habituellement de la culture. La culture, ce n'est pas l'artiste. Je dis avec force, hein, la culture, ce n'est pas l'artiste. Et quand je dis ça, en général, on me reproche, tous les artistes se lèvent dans la salle et me sautent dessus. La culture, ce n'est pas l'artiste. L'artiste n'est qu'un élément d'une action collective. La culture est avant tout une action collective. Quand je veux qu'un spectacle existe, quand je veux créer une pièce de théâtre, quand je veux organiser un festival d'art de la rue, ça nécessite systématiquement la collaboration de nombreux individus qui, dans leur collaboration, construisent le produit final qui est l'œuvre ou qui est le spectacle ou qui est le Festival d'Art de la Rue. Donc, il y a nécessité systématique, et donc ça, ça renvoie aux travaux de Howard Baker, d'une chaîne de coopération artistique, on appelle ça. Moi, je l'appellerais plutôt chaîne de coopération culturelle, parce que je vais distinguer ce qu'est la culture et ce qu'est l'art. Donc, la chaîne de coopération artistique, c'est la coopération d'un ensemble d'individus qui partagent des conventions, bon, ça, c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai peut-être, pour que l'œuvre d'art, j'emploierai pas le terme d'art, j'emploierai le terme de production esthétique, pour que la production esthétique existe sous une forme et pas sous une autre. Ok. Donc, évidemment, dans cette chaîne, dans ce réseau de coopération situé en plus dans l'espace, j'y reviendrai, l'artiste a un rôle central et primordial. On est d'accord. Néanmoins, la forme de du produit final est redevable de l'intervention de ces différentes personnes. Et cette coopération construit à chaque fois la forme finale. Et en fin de chaîne, le public est compris aussi, et ça aura de l'importance. Donc là, je définis dans une première partie, j'ai même pas dit mon plan, ce qu'est l'action culturelle collective pour moi. Et dans une deuxième partie, je verrai comment cette définition ou cette approche permet de la comprendre dans l'espace et dans le territoire et dans la ville. Donc, en bout de chaîne, le public est co-constructeur, au même titre que l'artiste, de la forme finale de la production esthétique, j'ai dit, pour ne pas parler d'œuvre, parce que c'est bien là aussi où il faut venir à une deuxième dimension de la définition de la culture et de l'action culturelle collective, c'est que, comme j'ai dit que l'artiste n'était pas, ne résumait pas collective artistique, sont de l'ordre du sacré, hein, sont de l'ordre de l'universel. Si on reprend les termes d'Anna Arendt dans la définition de la culture, et qui pour moi est une définition de l'art, on a universalité, intemporalité, et le troisième, c'est irreproductibilité de la production esthétique, et là, on emploie le terme d'œuvre, dans ce cas-là, évidemment. Donc l'action culturelle, en tant qu'action artistique, est définie en fonction de ces valeurs-là, qui sont implicites à la collaboration des gens qui participent à la chaîne de coopération. Voilà. Y a des moments, ces valeurs ne sont pas de mise ou elles ne sont pas mobilisées par les acteurs eux-mêmes des projets. Je peux organiser un concert de rap dans mon quartier en mobilisant le registre esthétique, le registre politique, le registre ludico-festif, hein, c'est passer une bonne soirée avec des amis, sans mobiliser nécessairement les valeurs de sacralité, d'universalité. Au contraire, il y a beaucoup de formes culturelles ou de registres qui donnent la valeur esthétique aux choses en fonction de leur pertinence par rapport au quotidien. D'accord ? Dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme lieu de culture, les friches industrielles ou les squats, la valeur d'une production esthétique est d'autant plus grande qu'elle fait écho à des questions de société. Donc là, on est loin de l'universel, on est dans une contextualisation quotidienne. La valeur de cet artiste, de ce groupe de musique, de ce peintre, est d'autant plus grande qu'il dénonce un problème social qui me concerne. Et là, c'est l'inverse, vous voyez bien, de l'intemporalité. Cette valeur n'a de sens que dans une société, à un moment donné, dans un contexte donné. Donc, il y a pour donner des exemples de valeurs différentielles, qui fait que si on ne les prend pas en compte, on ne peut pas comprendre la diversité des actions culturelles, de l'action culturelle collective, telle que je la définis seulement, telle qu'elle se vit sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. Pour contextualiser un peu les choses, je dirais, et de manière un peu à nouveau provocatrice, je dirais que les politiques culturelles qui existent en France depuis les années 60 ne sont que des politiques de l'art et qui n'ont jamais été des politiques culturelles capables de prendre cette diversité culturelle en compte. Le ministère de la Culture, dans le sens où je viens de définir les choses, ne fait qu'une politique de l'art qui défend un art que l'on appellera, qu'on n'a pas besoin d'appeler si on reprend les critères d'Anna Arendt que je viens d'évoquer, qui sont un art fondé à visée universelle, à visée intemporelle, à visée chose qui a d'autant plus de sens, dans une perspective républicaine qui fait jouer, alors instrumentalisation à nouveau à la culture, ce rôle de ciment dans une société. De la même manière, Malraux disait « Si la culture existe, ce n'est pas pour que les gens s'amusent », je le cite. Non. Les acteurs sur le terrain ne sont pas porteurs de ces valeurs-là liées à la culture. Le supplément d'âme, qui est une valeur sociale, n'est pas une valeur systématiquement portée par les acteurs culturels. À certains moments, et en plus, bon, je ne rentre pas dans le détail des temporalités, on peut faire jouer ce rôle à la culture à certains moments, et à d'autres, avoir simplement envie de s'amuser en écoutant de la musique avec des amis. Donc voilà. La politique culturelle, donc dans le sens où se limite à une politique de l'art, dans le sens où aussi les critères de subvention sont établis seulement sur des conventions artistiques, au sens où je viens de le définir. La qualité artistique prime systématiquement. Donc j'ai pas parlé d'où je tire ça. Hein. J'ai fait des analyses. Hein. Ça fait 15 ans que je fais des recherches là-dessus. Donc l'analyse des critères de subventionnement, que ce soit au niveau, alors ça c'est un autre truc intéressant, que ce soit au niveau municipal, disons à tous les échelons territoriaux. Donc cette idéologie de l'universalité de la culture et de la culture réduite à l'artistique est partagée par l'ensemble des acteurs culturels qui sont aux manettes de la distribution des subventions. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est parfois l'inconscience de cette idéologie. Quand des acteurs vous disent on va aider, alors j'ai employé les termes un petit peu passe-partout du milieu de la culture, les cultures émergentes qui vont être aidées sont seulement celles qui sont capables de faire preuve de la qualité, de faire montre de qualité artistique, ou si elles n'ont pas la qualité artistique, de légitimité par des pairs qui sont des milieux artistiques reconnus, ou si elles n'ont ni l'un ni l'autre, la capacité à produire du discours sur ce qu'ils font. Qui va rassurer le financeur. Voilà donc sur la proposition d'une approche de l'action culturelle comme action collective. Maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport au territoire. Alors, je vais revenir à une récente étude que j'ai fait pour la DRAC Île-de-France sur la territorialisation des pratiques culturelles en Île-de-France, et qui est aussi une proposition d'approche pour comprendre comment une action culturelle collective, telle que je viens de la définir, prend place dans le territoire et construit sa place dans le territoire et construit du territoire ou de la ville et structure la ville et les équilibres territoriaux. On fait beaucoup. Alors, je vais synthétiser en quatre variables, on va dire. Quatre variables, toujours avec l'idée que ce n'est pas systématique. Hein. Toujours dans les approches que je propose, autant elles permettent de penser, j'espère, la diversité des actions culturelles collectives, autant là, justement, comme il y a différents types d'actions culturelles collectives, il y a différents rapports à la ville, il y a différentes manières de construire un statut dans la ville. Néanmoins, il y a des éléments récurrents. Donc j'ai travaillé sur le MacVal à... Voilà. Et puis un ensemble de lieux à Bagnolet, l'échangeur, à Mantes-la-Jolie, le collectif 12, et j'en oublie, dans Paris... sur le canal Saint-Martin, ça va m'en venir. Donc voilà. Donc, et l'idée, c'était quand même de construire comment comprendre le processus. J'aime bien aussi penser en termes de processus, parce que tout ça, ça prend du temps, ça prend, c'est long. Il y a des temporalités, des choses assez imprévues, des contextualisations nécessaires, qui fait que le processus de territorialisation mobilise néanmoins ces quatre dimensions qui sont, alors je les cite... les qualités du projet culturel ou les qualités de l'action culturelle collective qui reprend en gros les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, mais je vais y revenir. D'autre part, et là je parle quand même de projets culturels collectifs ou d'actions culturelles collectives qui se sont installés dans des lieux. Donc la manière dont ce projet culturel collectif, donc c'est le deuxième élément, qualifie le lieu dans lequel qu'il occupe. Donc comme le lieu ou le morceau de ville ou l'espace. Donc comment ce projet culturel travaille le lieu, s'ancre dans un espace. Voilà, donc c'est le deuxième élément qui participe de la construction d'un statut et d'un rôle dans la ville. Troisième élément, la capacité du projet culturel ou de l'action culturelle collective à entrer dans les représentations des citadins et dans les représentations de la ville, notamment par sa capacité événementielle. Donc ça, c'est des choses qui sont tirées de la sociologie de la communication et des travaux. Je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, la quatrième variable, qui est une variable que je n'ai pas citée encore, et qui est un registre systématiquement présent dans toutes les actions culturelles collectives. C'est le registre culturel au sens identitaire. Voilà. Parce que dans l'idéologie prégnante actuelle d'un art universel, il y aurait la capacité de ces formes artistiques à toucher tout le monde. Là, on renverse le propos en disant que toutes les productions esthétiques sont des productions identitaires, apportées en tout cas à la dimension identitaire, qui fait qu'elles peuvent aussi bien créer du lien avec mon voisin que du conflit. D'accord ? Quand je produis de la culture, quand je produis des productions esthétiques, quand je m'exprime, il y a une dimension expressive qui fait que je dis ce que je suis à travers la production esthétique et qui fait que, en disant qui je suis, je construis un discours identitaire, ou en tout cas, ça a une dimension identitaire pour me construire moi, mais aussi dire par rapport aux autres qui je suis. Ça, c'est extrêmement important dans le cadre des politiques publiques, me semble-t-il, qui, au contraire, font, sur la base de la croyance au sens de Jean Cône, croyance magico-religieuse dans la culture à créer du lien, néglige ces potentialités conflictuelles qui, pour un sociologue, ne sont pas négatives nécessairement, d'ailleurs. Mais en tout cas, l'inconscience des acteurs politiques que quand ils organisent sur un festival d'art contemporain, cela génère autant de répulsion que d'attractivité, ou pas autant, mais en tout cas, ça peut l'un ou l'autre, que certaines populations vivent ça comme de la domination sociale, alors que ça part d'un geste qui se voudrait de l'ordre de la démocratisation culturelle. On est juste dans la violence symbolique. Voilà. Donc ça, il me semble très important de le dire, notamment si on est politique ou décideur et qu'on veut traiter des territoires ou des quartiers qui sont déjà caractérisés par un certain nombre de faiblesses socio-économiques. Voilà. Donc je reprends peut-être les critères un par un. Donc le premier, donc la qualité du projet artistique. Et oui, donc je l'ai dit, chaque projet culturel collectif a une qualité qui lui est propre. Donc cette qualité, elle mobilise ses registres. C'est un moyen de qualifier, ces actions culturelles, c'est de reprendre comment on articule le registre esthétique à d'autres registres. Ça peut être un registre éducatif, je ne l'ai pas évoqué. On est dans le socioculturel. Ça peut être un registre ludique, ça peut être un registre économique. Moi, je veux m'installer, je veux que la mairie me donne un lieu pour pouvoir installer une PME qui va faire du cinéma, n'importe quoi. Voilà. Registre économique, registre politique. Alors ça, le registre politique, il est aussi assez en équivoque, souvent dans la relation aux politiques, aux décideurs, parce qu'on y voit là, souvent, de la contestation. Hein. Alors, on parle de culture contestataire. Il faut bien voir que la contestation, c'est une forme de participation. Et que souvent, un des problèmes dans tous les lieux, sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit les squats, les friches culturelles, etc., c'est que ces acteurs, qui sont souvent des acteurs associatifs d'ailleurs, sont avant tout des acteurs citoyens. Le propre de la contestation sociale, c'est sa portée citoyenne, dans le sens, sur un mode critique. Hein, néanmoins, souvent, le politique se plaint de la non-participation des habitants. Et là, en face, il y a une réduction de cette participation à son côté contestataire qui ne prend pas en compte la dimension participative, politique au sens étymologique du terme, de participation aux affaires de la cité. Voilà. Donc voilà, juste pour reciter comme ça des registres et peut-être préciser des formes auxquelles on est confronté tous les jours, hein, que ce soit... confronté, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas, la diversité des actions culturelles, on la rencontre comme ça concrètement sur le terrain avec des gens qui viennent vous voir avec différents projets et qu'on retoque plus ou moins en leur disant non, ça c'est artistique, ça c'est artistique, ça c'est artistique. Ou en trouvant des excuses pour dire que c'est artistique. Même en le disant pas comme ça, bref, je rentre pas dans le détail ou dans la polémique, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Deuxième niveau, la qualification du lieu. Alors ça a été pour moi un élément important dans la comparaison entre des lieux, des projets culturels qui prennent place dans un ancien site industriel et des projets culturels comme le MacVal qui sont des constructions architecturales de toutes pièces. Alors c'est extrêmement complexe et j'avais distingué plusieurs niveaux dans ce processus et dans cette dimension du processus qui sont d'une part le lieu, hein, le rapport au lieu lui-même, mais à son architecture. Tout projet culturel est identitaire aussi dans le sens où il la pose, il marque l'espace, il marque le territoire, il marque le bâtiment. Et ce faisant, il est toujours frontière. On ne rentre pas dans un opéra comme ça. On ne rentre pas dans un squat comme ça. On ne rentre pas dans un gymnase comme ça. Voilà. Basique. Mais néanmoins, en avoir conscience. Et les marquages symboliques que font les groupes culturels, enfin les acteurs culturels qui s'installent dans les lieux, sont d'autant plus forts que là, on est dans le domaine culturel et esthétique, pour le coup. Et y a autant le marquage d'une échoppe commerciale est assez lisible et assez banal, et donc provoque moins de des tags sur un mur dans certaines friches, ou les façades parfaites organisées par les architectes des musées, des temples de la culture, sont des barrières symboliques à franchir. Donc le rapport s'établit là, déjà, dans cette dimension architecturale. Ensuite, le lieu lui-même, le bâtiment, est dans un quartier. Donc ça, c'est la deuxième dimension à prendre en compte. Quel quartier, quelles caractéristiques sociaux, ethniques, professionnelles. J'ai dit ethniques, il ne faut pas trop le dire, mais c'est quand même très important. Les relations à Paris, dans la région parisienne, sont quand même maintenant, aujourd'hui, oui, il faut prendre les caractéristiques socio-économiques des populations, mais les caractéristiques ethniques sont aussi à prendre en compte dans, et notamment je pense au Macval, hein, qui est dans un quartier à la population d'origine immigrée assez forte, et c'est un élément à prendre en compte dans le rapport qui peut s'établir entre cette population et ce projet culturel. Et quand à main d'œuvre à Saint-Ouen, les gens de la cité d'en face jettent des pierres sur les artistes qui sortent de main d'œuvre, ça veut dire quelque chose, hein. Et l'artiste n'est pas le projet culturel n'est pas cet élément magique qui va pouvoir s'installer n'importe où dans la ville et créer du lien, ou créer du développement économique, ou créer du développement territorial. Voilà. Et là, il faut lier tout aussi ces quatre niveaux. La capacité du projet culturel à se positionner, ça va faire la différence aussi. Main d'œuvre, c'est au début qu'on leur balançait des pierres. Ils ont réussi à ouvrir un café, à créer ce lien d'une manière ou d'une autre, même si c'est toujours problématique. Ok ? Donc voilà, c'est aussi prendre les acteurs culturels comme des acteurs sociaux, comme les autres, et pas leur attribuer cette capacité de pompier du social qu'on fait souvent. Hein. Voilà, juste attirer l'attention là-dessus. Donc le lieu, le bâtiment dans son architecture, et le lieu dans son quartier, dans sa ville, et plus largement tout ce qu'on veut. De troisième niveau, donc la capacité à rentrer dans les présentations. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Je suis peut-être un peu long. Donc la capacité à rentrer dans les... Alors ça, c'est un truc qui est assez rare en sociologie. La sociologie de la communication, c'est pas quelque chose qui... Antoine Picon, que j'avais entendu à Montréal, qui m'avait suggéré ces pistes de travail. Et puis, un écho sur le terrain entre quelqu'un, plusieurs fois, des gens qui nous disaient « C'est super le Macval, c'est super le Macval, c'est super le Macval ». Ça montre quelque chose d'autre de la ville de Vitry, d'autant que c'était à l'époque où une jeune fille s'était faite brûler dans une cité. Et donc, ça avait ce sens, qui était un sens très fort, quand même. Sens identitaire, pour le coup. Et puis alors, la question suivante, c'était bien évidemment... donc, vous y allez souvent, ça vous intéresse, ce qu'ils font et tout ça. Eh bien, non, on n'y a jamais mis les pieds. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant, dans le sens où des gens qui... n'avait jamais mis les pieds dans cet endroit, le valoriser néanmoins, l'intégrer à des représentations de leur ville, l'identité de leur ville passait maintenant en partie, c'est un élément, c'est jamais complet, passait désormais en partie par ce lieu, et il l'intégrait à des usages en plus du quotidien, à des usages de la ville, et en plus à une représentation d'une géographie urbaine dans laquelle il l'intégrait. Donc ça, c'était important à pointer quand même sur la territorialisation, quand même comme élément de territorialisation, cette capacité à entrer dans les représentations et à générer des usages de la ville. Si c'était juste des représentations, c'est pas le... Mais en plus, il y a des usages. Hein. On va plus dans ce quartier où le quartier change de qualité parce qu'il y a le lieu et on en a d'autres usages. Voilà. Élément quand même qui, avec le Macval, était lié à autre chose de typiquement urbain, dans la définition qu'on peut avoir de l'urbain par opposition au rural, On a évoqué tout à l'heure hein, des éléments d'urbain typiques, la densité, la mobilité. Et ça, c'est un autre élément qui est plus récent, c'est la capacité événementielle de la ville. La ville, c'est la possibilité sans arrêt d'avoir accès à des éléments. Le fait de me sentir... je me sens d'autant plus urbain et l'urbanité se construit d'autant plus que j'ai possibilité, hein, j'ai la possibilité, même si j'y vais pas, mais je sais que c'est possible d'accéder à tout un tas de petits événements, plus ou moins grands. Un festival, un lieu d'art contemporain, il se passe toujours des choses. Et ça oppose ça à la ruralité et à la dimension non événementielle du monde rural. Et là où le MacVal est quand même très fort, c'est donc dans sa capacité événementielle à créer de l'événement. Et d'être très original, d'ailleurs, je trouve, là-dessus, dans ses campagnes de pub. Hein. Moi, je suis à l'autre bout de Paris et je sais que le MacVal existe et je sais qu'à Vitry, il se passe ça parce qu'il y a des campagnes de pub en 4x3, je ne sais pas combien. Vous voyez, des panneaux publicitaires dans toute la ville, dans toute l'île de France. Donc, un positionnement à l'échelle régionale qui est tout à fait intéressant. Et voilà, et créer de l'événement. Alors, aussi mobilisation des médias, mobilisation de ceci. Et c'est un élément de territorialisation, me semble-t-il, de la culture qui est à prendre en compte et qui peut intéresser aussi le politique, pour le coup, parce que là, il se trouve que la communication, ça fonctionne, hein, même si les gens n'y vont pas. On pense qu'on veut, après, moi. Mais... Voilà. Alors, quatrième élément, c'est la dimension quatrième variable. Hein. Tout ça fonctionne simultanément. Hein. C'est vachement dur à imaginer, mais... Le projet, le lieu, l'événement, et puis la dimension identitaire. Parce que, quand même, eh ben, l'art contemporain, c'est un art de bourgeois. Et ça se dit pas, mais c'est ce qu'on nous dit, dès qu'on sort des milieux culturels. Pourquoi on n'y va pas ? Ben parce que c'est pas pour moi, c'est pour les bourgeois, et c'est un art de riche, etc. Donc... Malraux parlait aussi de la neutralité opératoire de la culture, hein, et le politique le pense aussi comme ça quand il pense l'événement culturel simplement comme quelque chose qu'on met là et puis ça va fonctionner. Ben, la neutralité opératoire de la culture, elle est quand même sacrément contredite par la manière dont les gens vivent la culture, telle qu'on leur impose, en l'occurrence, telle qu'on la leur impose. Même si les choses sont compliquées, vous voyez, on peut être fier qu'il y ait le MacVal, mais on peut ne pas aimer ce qui se fait dedans. Voilà. Et puis, surtout, la manière dont on ne reconnaît pas les pratiques culturelles dont eux-mêmes sont porteurs. Ça, c'est l'autre versant. Donc, pour avoir travaillé longtemps sur les cultures alternatives et les cultures alternatives... Parce qu'ils sont toutes alternatives, du coup. Mais cette dimension identitaire est extrêmement forte. Bon, alors, je ne rentre pas dans le détail. J'ai analysé les parcours des individus on est dans la construction de soi, d'une part, mais on est aussi dans la construction d'une participation au débat public. On est dans l'expression l'expression identitaire. Donc, quand on fait ça, évidemment, ça plaît pas. Pour donner un exemple quand même du fait que les choses ne sont pas mécaniques. Hein. J'ai encore lu récemment, il suffit, voilà, donc toutes ces friches, tout ça, ça crée de la gentrification. Déjà, les gens ne savaient pas ce que c'était que la gentrification, mais c'est pas grave. Il suffit de mettre un lieu culturel et hop. Et je cite toujours l'exemple inverse de Genève, donc, où j'ai travaillé sur un lieu qui s'appelle l'usine pendant plusieurs années. Donc, action culturelle collective alternative, lieu transdisciplinaire, dimension registre culturel lié aux politiques très fort, lié aux ludico-festifs. Lié à une économie, plus gros débit de boissons de Genève. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, est-ce que ça a produit de la gentrification ? Eh ben, ça a au contraire stoppé l'élargissement du quartier des banques et la tertiarisation du centre-ville, justement parce que les pratiques culturelles dont ils sont porteuses, avec toute la dimension identitaire, sont des pratiques porteuses de nuisances sonores notamment. Il y a une attractivité très forte pour les dealers à se trouver autour de ce lieu et que la qualification du quartier n'a pas été de l'ordre d'une augmentation des loyers comme on le voit partout et comme on pense que ça se passe partout, hein, de manière mécanique. Non, mais par contre, il y a eu des choix. Parce qu'il n'y a pas eu... Quand je dis que Je cite cet exemple aussi pour montrer comment les choses sont complexes et que l'acteur culturel est un acteur parmi d'autres. C'est que il y a eu des choix de fait, il y a eu des conflits. Donc l'usine en question, état d'urgence, a été mis au tribunal par une association de quartier qui s'était constituée, montée par des commerçants, qui se présentaient comme des riverains, mais qui en fait étaient une association de commerçants, et des promoteurs immobiliers qui avaient construit justement un immeuble juste en face de l'usine, pensant pouvoir revendre les appartements bien plus chers au bord du Rhône dans quelques années, et qui n'arrivaient plus à les vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même eu des choix politiques de fait qui sont pas les choix qui sont très fréquents, mais qui sont très originaux quand même. C'est que la municipalité, propriétaire du lieu, a été aux côtés de l'état d'urgence, au tribunal, et ils ont gagné le procès, et l'usine a continué ses activités qu'en France on jugerait intolérables, mais que la ville a voulu défendre parce qu'elles avaient de liens à la population et de liens à la jeunesse. Donc voilà. Donc 20 ans après, le quartier n'a pas changé. Donc à la jonction, ici, ouais. Place des Volontaires, l'évolution...
C'est là.
Je crois, non. Là. Sur les bords. Ouais. Juste sur le bord du Rhône. Donc l'évolution du quartier n'a pas été... Mais ce qu'on regrette dans d'autres villes d'avoir perdu ces commerçants, des loyers modestes et une population mélangée, est resté. Donc il y a quand même des choix politiques à certains moments qui sont importants. Peut-être que je vais conclure sur cet exemple. Hein, voilà.
Au questionnement et puis aux réactions, parce que je pense que c'est très riche tout ça. Après, ça, ce qu'il y a, c'est que ça remet en cause plein de conceptions sur l'action culturelle. Personne n'a rien entendu, donc ça sert à rien de faire des provocations. Alors.
Oui, je. Comment ? Non, on m'a dit que c'était bon.
Ouais. Non, j'avais essayé de faire une provocation, mais qui est tombée totalement à plat, manifestement. Donc,
Est-ce qu'il y a des réactions ? Moi, je trouve que c'est décapant et refais ta provocation, Chantal. Elle était pas.
Non, mais entre temps, il y a une question, il y a une intervention. Là,
ouais. Géographe. Donc, moi, je me retrouve totalement dans ce que dit mon collègue. Vous voyez que c'est ça illustre bien à la fois la différence et la complémentarité des approches sociologiques et géographiques, hein, puisque on arrive aux mêmes conclusions par des outils différents. Il était dit plusieurs choses qui évoquent pour moi d'autres terrains que j'avais travaillés. Hein. C'est vrai que fois, j'ai dit que j'étais pas spécialiste de la culture, mais en fait, finalement, si. J'ai travaillé sur le tourisme et la conservation patrimoniale en Australie. Donc, ça a un rapport, puisqu'on a parlé de musées. Donc il y a des outils encore là qu'on peut mobiliser par rapport à la question spatiale. C'est, on a parlé de la ville et des événements par exemple. Bon, si on reprend cette idée de lieu que j'ai défini tout à l'heure comme des moments où on annule la distance pour un but précis entre des acteurs précis. Ici on a tous annulé la distance momentanément dans notre emploi du temps pour pouvoir faire cette réunion. En fait la ville c'est un lieu et ça fonctionne sur la même logique, sauf que ça dure. Mais il y a du mouvement dans la ville. On choisit des localisations de résidence pour se mettre à proximité d'autres ressources. Et donc, là aussi, on essaie d'annuler la distance. On essaie de faire en sorte, si vous voulez... Quand vous êtes dans Genève Centre, pour reprendre Genève, ici, quel que soit un peu l'endroit où vous êtes, là où je mets ma main, vous êtes à peu près à la même distance de ce qui vous intéresse. Les centaines, les dizaines de mètres ne comptent pas. Bon, là, on peut commencer à parler de lieu. Et c'est vrai que à une époque, j'avais parlé de la ville comme d'un événement. Finalement, c'est-à-dire, on pouvait considérer que c'était un événement qui se perpétue à un endroit, et ou un événement ou une somme d'événements. Et du coup, on comprend bien le rapport entre cette conception de la ville et ce qui a été dit là. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui peut permettre, ça répond un peu à la question en retard par rapport à la serendipity. C'est-à-dire, si c'est la ville, c'est la serendipity. L'événement est vraiment cette idée-là de hasard, d'organisation du hasard, de configuration spatiale qui permet le hasard. Alors, il y a peut-être là aussi une voie. Pour contourner les pesanteurs de politique culturelle qui seraient trop territoriales, de jouer sur l'impulsion événementielle, justement. D'où souvent l'idée que une commune va faire un festival, justement, parce que elle n'est pas capable de maîtriser tout le réseau intéressé par le festival, mais elle va quand même faire en sorte que subventionner à son échelle, donc dans le territoire, un événement, donc elle peut pas le subventionner sur toute l'année ou de manière pérenne, mais elle peut le faire de manière ponctuelle. Elle va à un moment donné offrir une ressource au reste du monde, on va dire. Et le fait de, on peut dans un petit territoire se constituer en ressource, et on va expliquer que, enfin, on va faire en sorte que la ressource soit accessible par un système de réseau. Voilà. Donc là, on peut d'une certaine manière commencer à avoir une politique culturelle qui est réticulaire par essence. Mais elle n'est pas réticulaire de manière pérenne, elle est réticulaire de manière événementielle avec une action qui est ponctuelle. Après, la question, c'est que du coup, il faut être excellent parce qu'on ne fait pas un festival avec de la mauvaise qualité. Donc c'est, on retrouve mes axes là, c'est qu'à un moment donné, quelque part, dans la logique de l'excellence, à un moment donné, on crée un événement et toujours quand même sur une base de territorialisation, c'est-à-dire de pouvoir territorial, d'édicter des règles, de donner de l'argent dans un cadre territorial. Donc pas forcément obligé d'agir sur le réseau. Autre notion qu'on utilise, bon, c'est une notion encore plus sociologique, enfin plus générale, mais c'est pas spécialement géographique, mais ça peut s'appliquer à la géographie, c'est l'articulation entre réel, actuel, enfin réalisation, réel, actualisation et virtualisation. Il y a dans l'espace des individus, là je parle de l'effet que les gens adorent le McVal, mais ils n'ont jamais mis les pieds. En fait, le McVal, c'est un espace, enfin, créer un espace virtuel. Mais ça fait aussi partie de l'espace. Comme vous disiez, on va habiter en ville, pas pour aller tous les jours à l'opéra ou tous les jours au cinéma. Moi, je suis un hyper-urbain convaincu, indécrottable, si on peut utiliser la version. Mais ça n'empêche que comme je disais tout à l'heure à Chantal, je viens jamais au centre Pompidou. J'ai rien à y faire. Mais si je veux y aller, je peux y aller. Et cette simple virtualité doit être comptabilisée. Cette potentialité doit être comptabilisée comme une distance qui est là, qui est peut-être rompue très facilement. C'est pas uniquement le fait qu'on le rompe systématiquement tous les jours. L'idée du tous les jours, de la statisticité, des masses, c'est l'idée de réalité. Bon, la réalité de Paris, la réalité de l'aire urbaine de Paris, c'est ces mouvements pendulaires tous les jours, etc. On peut l'enregistrer. Il y a l'actualité, c'est ce qu'on fait réellement. Et bon, là, les gens, ils vont tous les jours au travail, ils vont tous les jours chercher les enfants à la crèche, ou je ne sais pas, ou ils vont jouer au golf. Bon. Mais il y a aussi tout ce qu'ils ne font pas, mais qu'ils voudraient pouvoir faire en décidant. Et ce qui va être le déclencheur, c'est justement cet imprévu. C'est, oh, j'avais pas prévu d'y aller, mais finalement, je peux y aller, parce que c'est bien là. Donc, il y a toujours ces trois dimensions d'espace, et la raison pour laquelle le McVal peut être bien vu, c'est parce que justement, il augmente ce que nous, on appelle le capital spatial des individus, c'est-à-dire que dans la palette de ce qu'il peut faire, il y a des choses qu'il fait effectivement, mais il y a des choses qui ne sont qu'une virtualité, qui ne seront peut-être jamais autre chose qu'une virtualité, mais c'est bien là, et donc ça valorise le lieu, en particulier Vitry. Et puis alors, bon, pour finir, il y a aussi cette histoire d'usine qui est en plein centre de Genève, cette idée de densité-diversité, ça renvoie bien à la ville. Pour finir sur la troisième truc c'était cette histoire d'art aborigène en Australie. C'est intéressant parce que ça reprend exactement ce qui a été dit par rapport aux valeurs différentielles. Je sais pas si j'utilise le bon terme, mais je crois que c'est ce que vous avez dit. Moi, je suis complètement d'accord sur l'idée qu'il y a une question de d'artialisation de la culture, enfin du moins de réduire la culture à l'artistique. Mais l'art aborigène, c'est très intéressant parce que on voit typiquement là émerger en Australie depuis quelques années la constitution de l'art aborigène, la présentation de l'art aborigène comme de l'art contemporain. Et comme une suite de l'art contemporain. C'est-à-dire, quand vous allez à la National Gallery of Australia à Canberra, ou alors quand vous allez dans les musées en général d'art australien, en particulier les musées d'art dit contemporain, vous avez, National Gallery, c'est marrant, donc il y a tout l'art contemporain qu'on peut imaginer, les grands maîtres de la question. Vous avez un pouce de César, je sais plus ce qui, ou pas le pouce de César, mais enfin quelque chose de César, j'y connais rien, hein, mais voilà, c'est ça, je l'ai vu. Et puis, vous avez en fait une suite logique, et chronologiquement, on arrive aux aborigènes. C'est-à-dire, les premiers arrivés finissent les derniers, la suite logique de l'histoire australienne. Et ça pose une question intéressante, parce que on voit bien que c'est pas uniquement, enfin dans le cas de l'Australie, c'est pas du tout uniquement une question de valorisation artistique, hein, parce que ça vient de tout le monde, ça vient des aborigènes qui ont bien compris que avant quand ils faisaient des dessins et des ronds et des points, vous avez en tête tout ce que c'est que l'art aborigène le plus classique, ils faisaient ça dans le sable, c'était, ils ont compris à un moment donné que il fallait pour exister face à l'homme blanc et pour pas se faire repousser dans les frontières, les confins ultimes du désert australien, il fallait adopter ces logiques. Ils ont très bien compris, ils se sont défendus en utilisant, en comprenant le droit de la propriété. Ils n'avaient pas de propriété, les aborigènes, ils n'ont pas de propriété. C'est une vie où c'est une société où le pouvoir dépend de savoir. C'est-à-dire, vous êtes le sage, vous êtes l'ancien, vous savez. C'est ça votre pouvoir. Il n'y a pas de propriété privée. Eux, ils ont compris qu'il y avait une logique de propriété. Il y a une logique de matérialisme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peint sur des toiles ce qu'ils faisaient sur du sable. Bon. Et au bout d'un moment, ils sont rentrés dans les circuits de l'art contemporain, ce qui les a ouverts au monde, ce qui a fait des expositions mondiales, et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés, au lieu d'être dans le huis clos australien et de se faire complètement ratatiner par une idéologie qui est celle de la mise en valeur du territoire, et eux, ce sont des quantités négligeables, ils se sont retrouvés ouverts au monde, et finalement, leur cause a été défendue par les populations du monde en général, ce qui fait que les Australiens ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient en les massacrant, ou en les, ça date d'un certain temps, mais pas tant que ça, ou alors en les internant dans des fermes spécialisées. Bon. Et donc, du coup, là, on voit bien que là, la logique de, ce qui était purement culturel et qui pourrait tourner au folklore devient carrément, est érigé au niveau d'art, à partir du moment où il y a un renversement, qui est impulsé par des rapports géopolitiques ou géoculturels, qui est que ça devient une part de l'identité nationale. Et c'est très récemment, d'ailleurs, qu'il y a cette histoire de demander pardon aux aborigènes pour les massacres, etc. C'est très très récent. Avant, l'idéologie australienne, c'était celle de la mise en valeur du territoire par les blancs. Maintenant, on essaie d'intégrer la culture aborigène, alors ça pose des problèmes, dans la culture nationale, et ça fait que la question que vous souleviez de savoir si qu'est-ce qui est légitime intercale le rôle du territoire au milieu des deux. C'est-à-dire que vous avez les cultures vernaculaires plutôt locales, c'est celles des aborigènes, qui d'ailleurs sont très variables selon les endroits. L'art aborigène n'est pas du tout similaire dans le centre de l'Australie ou dans l'Australie du Nord, par exemple. Vous avez de l'autre côté cette aspiration à l'universel ou cette argumentation qui consiste à dire l'art c'est ce qui est beau et ce qui est universellement beau et ce qui plaît universellement et sans concept, comme disait Kant. Mais au milieu des deux, l'acteur principal qui dit qu'est-ce qui est ceci ou qu'est-ce qui est l'art? C'est un acteur territorial et c'est souvent, en tout cas dans le cas français, c'est un acteur étatique. L'enjeu, c'est quelle possibilité de diversifier les acteurs qui donnent la légitimité? Est-ce que ça doit continuer à être des acteurs territoriaux à d'autres échelles, premier niveau, et puis éventuellement d'autres acteurs qui ne seraient pas territoriaux, qui seraient des associations ou des fondations?
On peut effectivement poser sur cet angle-là, mais on peut y compris interroger la question même de la légitimité à donner la valeur.
Oui. Oui, mais dès lors que la légitimité est appuyée sur l'idéologie nationale, ce qui est souvent le cas des acteurs territoriaux, ça fait un biais.
Ce qui est clair, c'est que la réflexion d'aujourd'hui, nous, on est plutôt à la recherche de quelque chose de simplification, de compréhension.
Ouais,
et finalement, vos interventions nous renforcent de la complexité. Et renforcent la situation de complexité dont on se rend compte au passage des travaux, c'est que on est quand même tout à fait, on est totalement les résultats d'une production de l'organisation culturelle fortement d'ailleurs issue de la guerre, enfin sur les dispositifs. On sent bien qu'aujourd'hui les conditions de production culturelle dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ne sont plus adaptées à la situation et à la société qui elle bouge. Je ne sais pas qui est-ce qui faisait la boutade hier de finalement, la culture se passe en dehors des lieux culturels, se construit aujourd'hui en dehors des lieux culturels. Et on voit bien en même temps le jeu et l'impact. Mais alors, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est du marketing territorial d'un McVal ou d'un Centre Pompidou ou d'un Guggenheim ou d'un etc., etc. Donc, on est dans cette complexité et dans ces contradictions, peut-être apparentes d'ailleurs. Et ce qui réinterroge, et j'entends bien moi cette question-là, ce qui réinterroge bien aussi derrière la question des réseaux derrière, et de la complémentarité des réseaux. Mais en même temps, je trouve que ça interroge très très fortement le mode d'organisation entre nos différentes structures culturelles, la conception autour de ces structures culturelles, qui n'ont pas été pensées fondamentalement en réseau, alors qu'aujourd'hui, ces questions-là... Donc c'est à nous à construire ce travail de réseau. Oui, Nelly.
La première, vous avez évoqué l'étude de la DRAC. J'imagine que c'est le troisième volet de culture et territoire. Non, c'est ça, parce que la DRAC Île-de-France a lancé.
Ouais, ça devait être le deuxième. Ça devait être le deuxième, ou même le premier.
D'accord.
Ah ouais.
Peu importe.
Il est en ligne le rapport.
Et donc, vous avez fait référence à quatre lieux, le MacVal, l'échangeur à Bagnolet, La friche de Mande-la-Jolie. Et la quatrième, c'est le point éphémère, c'est
exactement.
Ça
ouais.
Donc, je voulais savoir si c'est vous qui aviez choisi les lieux ou si ça faisait partie du cahier des charges de la DRAC que vous vous intéressiez aux quatre lieux. Ça, c'est ma première question.
C'était interministériel et néanmoins le pilote était la DRAC.
Ah bah oui. Ouais.
Il y avait
culture et territoire, le pilotage était la DRAC.
Ouais.
Donc question, parce que je m'intéresse beaucoup au cahier des charges, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Et la deuxième question, c'est effectivement si la culture est conçue comme un ensemble de productions artistiques et culturelles, comme ça a été le cas, comme vous l'avez si bien dit, depuis les années 60, effectivement, on est dans une logique de l'offre. Ça, c'est le répondant. Vous et un certain nombre d'ici d'entre nous, on prend conscience que la culture, c'est aussi un ensemble de processus, et un ensemble de places d'acteurs dans ces processus. Et c'est tout ça qui est en train de bouger, qui va nous permettre sans doute d'avancer un peu. Et vous avez peu parlé de ça, c'est-à-dire la culture comme processus. Voilà. Je veux savoir pourquoi vous n'avez même pas, je crois, donné ce mot, parce que je pense que ça permet de sortir de la logique des équipements et la logique des productions.
Alors,
de l'offre.
Sur la première question, on m'a imposé de choisir le McVal.
Et les trois autres.
J'aurais pas le dire, mais c'est les cuisines de la recherche. C'est assez révélateur. J'en dirai pas plus. Sur la question du processus. Alors.
Et sur les trois autres lieux, c'est vous qui les avez choisis.
Ouais, ouais.
Et pourquoi ?
Parce que c'était mes terrains initiaux. J'ai toujours travaillé sur ces. Enfin, j'avais jusqu'à là travaillé, mais ça sur des. Moi, j'appelle pas ça des friches industrielles. J'appelle ça des initiatives culturelles privées associatives. Ce qu'elles sont, parce que le lieu m'intéresse très peu finalement, c'est le projet, une fois de plus le lieu est secondaire, hein, toujours dans l'approche que j'ai présentée je veux dire la friche André Malraux a les mêmes caractéristiques ou l'usine, plutôt plus l'usine de Genève a les mêmes caractéristiques que les abattoirs de la Villette si on veut, c'est un lieu de production industrielle mais ce qui s'y fait dedans est quand même relativement différent voilà. Donc, pour répondre quand même sur la question de processus, pour moi, tout ça, c'est du processus. Il n'y a pas de, l'action collective telle que je l'ai développée, c'est toujours du processus. C'est un processus de co-construction, de coopération de différents acteurs. Et ça prend du temps. Et alors là, je viens de terminer un rapport pour la région Poitou-Charentes, je le disais tout à l'heure, en aparté, sur la territorialisation, la production territoriale liée au festival d'art de la rue. Et un élément quand même hyper important, même pour la question des festivals, qui est quelque chose d'extrêmement événementiel, si on veut vraiment les prendre en compte de leur place sur le territoire, il faut les prendre sur le long terme. Dans l'année, c'est des choses qui sont... Et il faut prendre les réseaux. Hein. J'ai pas développé trop de ça non plus, mais tout ça, c'est une approche en réseau. La territorialisation, c'est d'abord les réseaux. La ramification de tous ces réseaux dans la ville construisent la ville. Le McVal, c'est pas qu'un lieu, c'est des réseaux culturels qui s'y croisent, qui irriguent la ville et qui la construisent de cette manière. Et donc oui, donc le processus, il est là, il est dans cette, c'est que ça en fait. Hein. C'est pour ça. Par contre, je m'attarde pas sur l'art comme processus. Ça m'est égal. C'est pour moi, c'est une manière de réintégrer dans le giron artistique. Des projets culturels qui n'ont pas le sens, auxquels les acteurs ne donnent pas ce sens. Hein. Je pense notamment au hip-hop ou des choses comme ça, qui ont été justement à la Villette remis sur scène, alors qu'au départ, c'est le dispositif du hip-hop, notamment dans la danse, c'est un dispositif en cercle, dans la rue, etc. Ils ont été remis sur scène dans la salle italienne par un dispositif institutionnel. Je ne critique pas ce dispositif. Hein. Il faut aussi nuancer mon... Je trouve que ça a beaucoup de sens pour la création contemporaine que des artistes de hip-hop aient été intégrés au monde de l'art contemporain, au monde de la danse contemporaine en l'occurrence. Néanmoins, ce que j'aimerais, si ma démarche a un sens, c'est qu'on prenne les choses pour ce qu'elles sont à chaque fois, hein, et pas ni plus ni moins. Et qu'à un moment donné, faire du hip-hop dans sa rue, dans son quartier, ça a du sens. Et ça a ce sens-là, un sens ludico-festif, je l'ai dit, un sens politique, un sens identitaire. Et si on veut lui faire jouer d'autres rôles, eh ben, il faut le dire, ou il faut mettre les choses à plat. Mais c'est pas impossible. Et de même que l'intervention d'artistes dans certains quartiers a du sens dans cette dimension de processus et dans cette temporalité. Mais il faut dire les choses, quoi. Et pas tromper les gens en leur faisant croire que ce qu'ils vont faire, enfin, en n'employant pas les bons termes, quoi. Voilà. Et quand même, pour donner des paradigmes différents, parce qu'on a du mal à voir ce qu'on peut faire autrement. L'usine dont je parle, pour reprendre l'exemple de Genève, c'est quand même étonnant de savoir pourquoi ça a été financé. Quand je dis que c'est pas pour des raisons culturelles ou artistiques, c'est pas pour des raisons culturelles ou artistiques. Ça a été financé pour des raisons sanitaires et de gestion de la violence. L'élu à la culture, on n'en avait rien à foutre de ce que vous allez faire comme art dedans, on s'en foutait. C'est la métaphore, alors je l'appelais dans des textes, la métaphore de la cocotte minute. Hein. On sentait bien que ça allait péter, il y avait eu un mort à Zurich dans les années 80, et si on donnait pas un lieu où les gens pouvaient s'exprimer, c'est un lieu d'expérimentation sociale plus que culturelle, ce lieu-là. Voilà. Autre, et donc sécuritaire, au sens où on voulait savoir où étaient les dealers, on voulait savoir qui dealait, on voulait savoir qui c'était, et on voulait surtout que nos jeunes se droguent pas dans des conditions... C'était aussi le même discours à Poitiers au confort moderne. Je voulais pas que... Donc, c'était nos enfants, l'élu à la culture qui... Non, pas l'élu, le directeur des affaires culturelles qui dit ça. C'était nos enfants. On voulait pas qu'ils aillent se droguer. C'était le début des rave parties ou des concerts de punk rock dans les années 85-88. On voulait pas qu'ils aillent se doper, droguer dans des caves où il y aurait pas... s'il y avait un problème, ce serait encore pire. Donc, on a voulu contrôler ça sur place, quoi. Et ce n'est pas du tout des logiques culturelles. Après, c'est devenu des logiques... surtout à Poitiers, où il y avait des attentes artistiques, pour le coup, puisque c'est devenu le confort moderne, en même temps qu'un lieu de hardcore, punk rock, c'est devenu le plus grand espace d'art contemporain de Poitou-Charentes. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres logiques. Hein. Mais moi, montrez-moi en France, donc à part le confort moderne que je viens de citer, des espaces en France culturels, qui sont gérés sur une logique qui n'est pas que culturelle. Moi, je dis pas qu'il faut faire ci ou ça, mais... La logique d'expérimentation sociale, de construction de soi, des jeunes, de la place que les jeunes prennent dans la vie publique, c'est par à Genève, c'est par l'usine que ça se passe. Et certains sont devenus conseillers municipaux, voilà, alors qu'ils étaient les plus radicaux des punk rockers dans les années 70 et que ils ont fait leur apprentissage là-dedans, apprentissage collectif, apprentissage citoyen, etc.
Moi, je cèderai à Fabrice Raffin d'attaquer frontalement. Peut-être que sur les choses, on peut discuter après. Mais d'attaquer frontalement la question culturelle et artistique. C'est-à-dire que l'action culturelle collective, ça me plaît. Je pense que là, on est dans une réalité... bien entendu, ensuite, la question que je vous pose, si on je pense qu'on peut qu'adopter ça, et que l'action culturelle collective, c'est de faire jouer à la production esthétique un rôle qu'on peut décliner, soit politique, économique, etc., etc., ça me plaît. Voilà, ça me plaît parce que on ne sait jamais comment se dépêtrer ou se positionner, d'autant plus que si on accompagne ça du fait que vous dites qu'aux différents, que ce soit à l'échelon de l'État ou des collectivités territoriales, ce ne sont que des politiques de l'art et de n'importe quel art qui sont faites, ce qui est vrai, d'autant plus on se dit alors... Comment fait-on une action collective avec des gens qui sont, par exemple, dans les collectivités territoriales ou dans l'État, qui, eux, sont que dans une politique de l'art, avec les autres... Voilà. Alors, je trouve que les choses deviennent... comment dire, ce qui est compliqué apparaît immédiatement. Voilà. Ce qui est compliqué apparaît immédiatement. Les collectivités territoriales ont un positionnement et l'État en général, c'est pas tout le monde, il y a des collectivités territoriales qui essayent de faire un autre boulot et heureusement, mais en tous les cas, on est tous de près ou de loin pris par ce modèle, hein. Je veux dire, on a quelque chose, on a un rapport, alors voilà, et c'est ce rapport pas clair que sa pointe qui m'intéresse. Et est-ce que vous pourriez nous, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de cette question-là?
Est-ce qu'on peut prendre peut-être plusieurs interventions? Parce que l'heure commence à tourner, si on doit laisser notre cher ami faire une petite synthèse.
Juste une petite réflexion.
Je ne suis pas sûr qu'il soit allumé le micro.
Il est rouge, mais il n'a pas...
Juste une petite réflexion, ça marche là,
ouais.
Je trouve que cette façon de voir la géographie au-delà des cartes, plutôt comme espace, donc cette vision un peu spatiale, comme il a été dit, je trouve que c'est très intéressant parce que donc on est finalement dans cette construction de politique culturelle territoriale. Si on voit plutôt l'espace et donc l'espace de construction entre deux acteurs et donc la possibilité d'ouverture, de dialogue et puis d'inventivité, ça fait rentrer par une autre vision, une autre porte qui donne beaucoup plus de possibilités finalement de construire et d'imaginer des choses plutôt que d'être un peu en frontalité quoi finalement. Donc la force est dans l'espace de dialogue plus que dans une rencontre de deux points de responsabilité ou de deux points de vue ou de deux équipements ou du politique et du je sais pas quoi, de l'économique et du social. C'est finalement ce qui compte, c'est l'espace de rencontre qui est porteur d'imagination. Et je trouve que pour nous, finalement, valoriser ça dans nos constructions, je trouve ça porteur. Voilà.
Derrière.
Non, c'est simplement pour vous dire au revoir, je m'en vais. J'ai passé 2 heures avec vous et j'ai trouvé ces deux interventions absolument passionnantes. Je suis désolé, Huguette, je n'entendrai pas ton propos. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je m'en vais. Non, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je m'en vais, parce que c'est en lien avec ça. Je vais au vernissage d'une exposition dans une commune du sud du département d'une artiste contemporaine qui a travaillé sur des vêtements interactifs. Donc, c'est un truc qui est complètement improbable. Et sur lequel pourtant tout ce que vous venez de dire s'est opéré, mais je veux dire parce qu'effectivement c'est un ensemble, c'est une chaîne collective qui a amené à ce que ceci se produise. C'est pas une artiste qu'on a pris à un endroit puis qu'on a dit tu vas faire ça là. Et donc voilà, j'ai trouvé que votre propos était en tout cas, c'est ce que j'apprécie chez les chercheurs, très éclairant quant à la vision qu'on a vis-à-vis de nos propres pratiques. Voilà, je vous remercie bien, et puis excusez-moi Huguette.
Regardez la carte du trafic, de toute façon, tout à l'heure, la route était bouchée.
Tu vois, il est 4h30, il faut que j'y sois à 6h30, tu vois pourquoi je pars.
Vendredi soir, c'est début du week-end. D'autres oui. Interventions. Bon, mais alors.
Ouais, mais je vais juste répondre. Juste répondre quand même pour appuyer sur les différences qu'il y avait avec mon collègue.
Géographe.
En sociologie, il n'y a pas de hasard. Et alors, le problème, c'est construire des espaces de rencontre. C'est bien beau, mais comment faire pour que les gens s'y rencontrent, c'est autre chose. Il se trouve que les espaces de rencontre existent. Qu'il faudrait, avant de construire les espaces, je mets toujours les espaces au second plan, ce qui me concerne. Je suis d'abord les réseaux, moi, de voir où se ramifient ces espaces. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je reprends cet exemple de Genève, je sais pas pourquoi je parle autant de Genève aujourd'hui, mais l'usine, c'est un espace de concert, d'exposition d'art contemporain, dans lequel il y a parfois 3 personnes qui viennent au vernissage, des concerts de musique contemporaine dans lesquels il y a parfois 7 personnes ou 8, ou des dizaines, des centaines. Mais c'est pas là l'essentiel. Je pense qu'il faut sortir de la logique comptable à ce niveau-là, pour savoir ce que l'impact culturel aussi, hein, et que l'importance de cette usine en question, c'est que il faut suivre après tout ce qu'elle, comment elle construit une centralité et un nœud de réseau. Et la territorialisation des pratiques culturelles, c'est ça, c'est que les réseaux de coopération artistique que j'ai évoquée ou de coopération culturelle, ils sont toujours spatialisés. Et donc, s'il y a des endroits comme l'usine ou d'autres qui émergent à certains moments et dans lesquels, là, pour le coup, il y a de la rencontre. Et puis, il faut savoir comment se fait la rencontre. Parce que la rencontre de l'usine, s'il y a 6 personnes au musée d'art contemporain de l'usine, il y en a un, il y a un espace fort d'espace art contemporain de l'usine, il y a 2000 personnes qui passent au bar dans la nuit. Donc, c'est aussi une conception des espaces culturels qui est spécifique. Et c'est une conception aussi. Quand je parlais du registre festif tout à l'heure, c'est pas le registre festif. J'entends une pub hallucinante en ce moment à la radio ou à la télé, je ne sais plus. En France, on aime faire la fête. Il y a le 14 juillet, il y a je ne sais quoi. Mais c'est pas la fête au sens institutionnel dont on parle. C'est pas la fête au sens commémoratif. C'est la fête au sens de Jean Duvigneau, qui est ce moment de fin des règles sociales ou de mise en suspens des règles sociales. Et je peux vous dire que quand on boit un coup à l'usine, on se lâche. Les gens, la culture, c'est aussi ça. Je sens une certaine surdité, mais une surdité ménagée de la part des politiques publiques en France, dans une perspective à nouveau là, mais de contrôle sanitaire et social, hein, il faut le dire, d'entendre ce genre de demande des populations. On est d'accord pour l'offre, pour faire de l'offre culturelle, mais entendre cette demande. Et quand je travaille sur les festivals d'art de la rue en Poitou-Charentes, eh ben les gens vont au festival d'art de la rue pour se lâcher. Ils vont pas pour voir les compagnies. Les compagnies font partie du décor et de l'ambiance. Elles ne font pas partie de l'aspiration des publics. C'est dur à dire, hein, je suis désolé de le dire, mais il faut juste écouter les gens. Et quand à 2h du matin à Cognac, au festival de Cognac, les CRS interviennent pour arrêter une fête en train de se dérouler et des gens qui dansent, tout simplement, je trouve qu'il y a des questions à se poser quand même. Donc voilà, espace de rencontre, je veux bien. Quand ils existent, il faut quand même les laisser vivre. L'espace de rencontre tel que le politique l'imagine, c'est l'espace public policé. C'est difficile. J'ai analysé aussi ce fantasme dans les politiques publiques. Qu'est-ce que le bon espace culturel pour une mairie? Qu'est-ce qu'il est l'espace culturel réussi? C'est l'espace où tout le monde va. Ben ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. On l'a analysé précisément. Les frontières symboliques, les intérêts esthétiques des uns et des autres, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut juste écouter. Hein, la volonté du contrôle total, pour des raisons justifiées, mais parfois inconsciente, parfois liée à des systèmes, hein, des systèmes juridico-administratifs, il faut trouver un moyen d'en sortir peut-être. Moi, je n'ai pas de préconisation là-dessus, mais enfin, j'en ai d'autres, j'en ai à certains moments, mais là, ce n'est pas mon rôle. Quoi. Voilà.
Merci.
Non, mais je ne vous attaquais pas personnellement.
Non, c'est juste pour dire ça, c'était l'espace de rencontre entre personnes ou entre institutions pour construire quelque chose. Donc, c'était pas les espaces de rencontre.
Ah, ça, je suis là, oui.
Physique. Hein. Ouais, c'était ouais. Les espaces de rencontre, de dialogue, et que c'est plus l'espace qui compte que le face-à-face de deux structures, deux institutions, deux milieux. C'est un peu philosophique.
Moi, je pense qu'il faut qu'on reste solidaires, vous les sociologues et nous les artistes ou les médiateurs, parce que si on interroge les gens sur l'utilité de la sociologie, on va retrouver à peu près pour les mêmes.
Non, mais je suis d'accord.
Non, mais je voudrais.
Mais non, mais j'attendais qu'on m'attaque sur le côté du rôle que j'ai fait jouer aux artistes. Mais
je voudrais.
Mais oui, j'ai bien compris, mais on y revient toujours. Mais moi, ce que je voudrais insister sur le fait que cette approche ne rabaisse pas le travail des artistes, et au contraire, c'est une manière de valorisation. Parce qu'on les retrouve là où on les attend pas souvent, et pas sur l'esthétique justement. J'ai dit tout à l'heure l'importance du travail de certaines compagnies dans les cités, mais un travail de long terme, un travail qui n'est pas immédiat et un travail qui a des effets extrêmement forts. Mais réduire toute l'action culturelle à ça, c'est embêtant. Voilà. Je suis désolé, mais j'essaie d'être aussi objectif que possible, hein, mais c'est pas facile parce que moi aussi je suis dans des postures idéologiques.
Je voudrais peut-être prolonger. Non, je peux pas prolonger. Si je peux.
Non. La parole est à Huguette.
Hein? Bon.
C'est à Genève, il y a tous à Genève.
Non, mais Moi, j'aurais voulu simplement que j'entends bien et je trouve ça tout à fait intéressant ce qui est dit. Enfin, moi, je trouve qu'il faut mettre les pieds dans la fourmilière à un moment. Et ben oui, ben, c'est très bien. Moi, je tire mon chapeau et je trouve ça très bien. Mais ce que je voudrais justement, c'est qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire quels sont effectivement les espaces de rencontre possibles. C'est ce que je te disais tout à l'heure, ou les espaces, je sais pas quoi, ce que vous voulez, entre ce qui est de l'action collective et entre les politiques qui font de la politique de l'art. Voilà, c'est tout. Alors, il n'y en a peut-être aucune.
Non, mais je ne vais pas répondre en deux secondes. Mais...
On va garder ça pour la prochaine fois.
Ça pose la question de la reconnaissance, surtout. Quoi.
Ah, pardon ?
La question de la reconnaissance est posée là-dedans. Mutuelle, je suis d'accord. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose à inventer.
Ouais.
Ça, c'est un enjeu pour moi. Fait, ouais. C'est une invention. Je veux dire, là, quel lieu à Montreuil ? Quel espace ? Pas forcément un lieu, je ne sais pas ce que ça peut être, mais comment on se rencontre ? Je suis bien d'accord qu'il y a, une grosse question. Là.
J'ai bien retenu que le dealer avait un rôle très important sur la rencontre.
La quoi, pardon ?
Le dealer.
Le dealer avait un rôle très important pour la rencontre.
Dure, avec la police.
Je ne suis pas sûr que ce soit cash, mais...
Il y a le sport aussi. Pardon.
Huguette. Je te laisse la place.